L'actualité des idées dans cette dernière partie de la Grande Table, mondialisation du non-lieu à l'hyperlieu. Nous recevons aujourd'hui le géographe Michel Lussault, professeur à l'École normale supérieure de Lyon, cofondateur de la revue Tous Urbains, président du Conseil supérieur des programmes depuis presque 3 ans. Monsieur spatialité humaine, Michel Lussault défend une approche sociale de la géographie depuis l'homme spatial, où il posait les fondements d'une théorie de l'espace, de la lutte des classes à la lutte des places, paru en 2009 pour une nouvelle approche de l'action spatiale des opérateurs sociaux, jusqu'à L'avènement du monde, un ouvrage paru en 2013 sur nos nouvelles manières de vivre dans la mondialisation urbaine. Demain paraîtra son nouvel essai, Hyperlieu, les nouvelles géographies de la mondialisation aux éditions du Seuil. On y retrouve les jeux de celui qui plaide pour des sciences de l'expérience sociale, dénonçant une vision de la mondialisation homogène, uniformisée. Il développe le concept d'hyperlieu comme autant de poches de résistance, de lieux événements, de contre-lieux, et montre un monde marqué par l'émergence de ces localités où de nouvelles formes de vie sont en permanence inventées, voire réinventées. Bonjour Michel Lussault.
Bonjour.
Quel est le point de départ géographique de ce livre, ou théorique ?
Le point de départ théorique et géographique, parce que c'est aussi un point de départ qui renvoie à mon expérience personnelle de terrain en tant que géographe, c'est l'agacement par rapport à des pensées du monde et de la mondialisation qui ont tendance à considérer celui-ci comme de plus en plus plat et de plus en plus homogène. Nous avons été saturés depuis des décennies par des analyses, soit qu'elles fussent optimistes ou pessimistes, qui faisaient, en raison même des logiques de mondialisation du monde, quelque chose de plus en plus fluide, circulant, plat. Certains ont même parlé de société liquide, concept d'ailleurs intéressant.
Défini par Sigmund Baumann.
A disparu il y a quelques semaines. Et je trouvais cela tout à fait contestable, et je trouvais aussi cela tout à fait contredit par l'expérience que je pouvais avoir de mes terrains, où au contraire, je voyais se multiplier de nouvelles formes d'attachement des individus aux lieux, à la fois les lieux où ils vivent, les lieux où ils travaillent, et de plus en plus les lieux où ils décident de définir un certain type d'engagement social et politique. Et évidemment, depuis maintenant quelques années, ce que l'on a appelé le mouvement des places, qui a commencé au moment du rassemblement à Madrid de tous ceux qu'on a appelés les indignados, qui s'est poursuivi à Occupy Wall Street, qui a eu des équivalents lors des révolutions arabes, mais aussi à Hong Kong. Je me suis aperçu qu'il ne se passait pratiquement pas une semaine ou un mois sans qu'une place ne soit investie ainsi par des individus qui en faisaient un moyen de revendiquer quelque chose. Je me suis dit, il y a peut-être là aussi un autre type de lieu nouveau, un prototype presque d'un lieu politique qu'il faut penser en tant que lieu qui viendrait contredire cette homogénéisation liée à la mondialisation. C'est-à-dire qu'en fait, la mondialisation provoquerait au contraire un espace de plus en plus scandé, ponctué, marqué, saturé de lieux en quelque sorte, et de lieux auxquels nos attachements sont de plus en plus forts.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, le monde non plus, pour vous, entre des logiques d'homogénéisation et des logiques de différenciation, on peut vraiment parler aujourd'hui d'un monde sous tension? En tout cas, c'est comme ça que vous nous le présentez.
En tout cas, ce que j'essaie de montrer, c'est que le monde est profondément équivoque et que les réalités sociales sont profondément équivoques. Je n'aime pas les dogmatiques qui simplifient toute situation et qui proposent des visions dualistes des réalités sociales et politiques. Je dis souvent, le monde est équivoque et nos relations à ce monde sont ambiguës. Et c'est bien cela qui fait la complexité du moment. C'est bien cela qui fait que les vieilles théories et les concepts que nous avons sur étagère sont souvent, si je puis dire, impuissants à nous permettre de rendre ce monde intelligible. Alors oui, le monde s'homogénéise incontestablement. Il y a des forces de standardisation et d'homogénéisation de ce monde que j'ai décrite notamment dans le précédent livre, L'avènement du monde. Mais en même temps, le monde se différencie de plus en plus. Le monde se différencie en lieux qui deviennent de plus en plus fondamentaux pour les individus, comme d'ailleurs de grands anthropologues de la mondialisation, comme à Padurai, mais comme Omi Baba également, nous avaient montré que finalement, le monde homogénéisait les cultures, mais contribuait aussi à en produire de nouvelles et de plus en plus. Et c'est cette tension que j'ai voulu placer au centre de ce livre.
Mais cette différenciation, est-ce qu'elle signe pas tout de suite la fin de la mondialisation ? Est-ce qu'on n'est pas entré justement dans cette ère de la démondialisation pour vous ?
Je pense qu'on ne peut accepter le concept de démondialisation que dans la mesure où l'on confond mondialisation et globalisation économique. Alors si l'on confond mondialisation et globalisation économique, alors de facto, on peut être amené à considérer qu'en raison du retour des souverainismes et des protectionnismes, nous entrons dans une phase où cette globalisation économique est quelque peu contestée. Mais si l'on prend au sérieux le fait que la mondialisation, c'est plus que la globalisation économique, c'est quelque chose qui renvoie à un bouleversement des genres de vie, à un bouleversement des manières d'être, à un bouleversement des modes de fabriquer ces relations au lieu et aux autres, un bouleversement des temporalités, eh bien l'on voit que la mondialisation continue et n'a pas de cesse. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump propose via le Muslim Ban quelque chose qui renvoie en apparence à une démondialisation.
Le décret anti-immigration.
Le décret anti-immigration. Mais en réalité, il est immédiatement confronté au contraire. C'est-à-dire, il crée une multiplicité de nouveaux lieux d'attention mondiale. Regardez ces manifestations qui se déroulent autour des aéroports, dans les rues, qui deviennent des sortes d'hyperlieux événements, comme je l'ai défini dans le livre. C'est-à-dire des endroits où on se rassemble pour faire cause commune. Et autour de quoi fait-on cause commune ? Autour de la liberté de circulation, autour de la diversité. Et que fait-on en faisant cause commune ? Eh bien, on crée une sphère politique, on crée une manière de penser le politique différente, et on le fait à l'échelle mondiale, puisqu'il y a aujourd'hui un mouvement mondial autour de cela. Et on oblige un certain nombre d'acteurs politiques qui ne pensaient pas intervenir, à intervenir. Le nouveau secrétaire général des Nations Unies intervient, le président mexicain intervient, tous les hommes politiques de premier plan interviennent. Nous avons donc là, au contraire, quelque chose qui renverrait à une hyper-mondialisation, alors même qu'on pensait être dans l'affirmation d'une démondialisation, qui est en fait une affirmation postiche.
Alors hyper, il faut peut-être définir ce terme. Vous présentez ces hyper-lieux comme des prises de guerre, hein, quelque part, à la mondialisation réunie sous cette bannière générique de l'hyper-lieu. Vous en faites toute une typologie. Quels sont ces lieux ? Qu'est-ce qu'ils ont surtout d'hyper ? Est-ce que c'est de par leur taille que vous les jugez hyper ou de par leur fonction ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ?
Alors, il faut préciser ce que j'explique dans le livre, que le concept d'hyperlieu me vient aussi d'une réaction de critique en tant que géographe face au non-lieu de Marc Auger. Livre célèbre paru il y a plus d'une vingtaine d'années dans lequel Marc Auger prenait les aéroports notamment comme des emblèmes de ce qu'il appelait une surmodernité plutôt aliénante. Pour lui, ces aéroports étaient des non-lieux, c'est-à-dire des espaces où il n'y avait plus aucune vie sociale possible. Et il opposait à ces non-lieux de l'anonymat, du croisement, de la fonctionnalité, ce qui était pour lui finalement le seul creuset possible et envisageable de la vie sociale, c'est-à-dire la résidence, le domicile, où la relation à autrui se construisait de façon pleine et entière.
Vous dites qu'il y a au contraire de la connexion dans les aéroports, une connexion qui s'y établit, et ils deviennent un peu le cœur battant de cette mondialisation urbaine. Hein. Je vous cite, se joue là-bas d'une manière spectaculaire la chorégraphie et la dramaturgie de la vie quotidienne.
Oui, je pense que dans une certaine mesure, les aéroports, les grandes gares, mais aussi quelques très grandes places urbaines, comme celle de Times Square, dont je fais une sorte d'emblème de l'hyperlieu, eh bien, ce sont des espaces où, au contraire, la modernité, la mondialité se cristallisent et où les interactions sociales sont portées peut-être au maximum de leur intensité. Pourquoi hyperlieu ? Eh bien, j'ai essayé de jouer sur le mot hyper en disant que il y avait d'abord une hyper intensité de la concentration des réalités sociales dans ces lieux. Ce sont des lieux intenses, c'est-à-dire des lieux où se concentre un maximum de réalités matérielles, mais aussi immatérielles, les individus faisant partie de ces réalités matérielles. Lorsque vous êtes à Times Square, vous êtes effectivement frappé par le nombre de personnes qui s'y rassemblent, des personnes extrêmement diverses, nous y reviendrons, parce que pour moi, les hyperlieux sont aussi des lieux de diversité sociale, beaucoup plus que les espaces résidentiels. Si l'on veut, aux États-Unis, éprouver la diversité sociale, eh bien, il faut aller la chercher dans les hyperlieux. Il ne faut pas aller la chercher dans les quartiers résidentiels qui sont, eux, complètement homogénéisés par les formes de ségrégation sociale. Nous l'avons bien vu à propos de tout ce qui s'est passé autour des des assassinats de jeunes noirs qui tous partaient de la contestation par les policiers des droits des noirs à être présents dans l'espace public résidentiel. Donc il y a une très grande intensité de la concentration de réalité matérielle, mais aussi de réalité immatérielle. Times Square, c'est pour ça que j'en fais un emblème, est bordé de murs d'images, est saturé de signes, est saturé de discours, de récits. C'est un lieu aussi où viennent se tourner de nombreux films, de nombreux clips. Il y a donc aussi une concentration de biens culturels, en quelque sorte, qui en fait, dans une certaine mesure...
Ça pourrait être les Champs-Élysées à Paris pour trouver un équivalent.
Ça pourrait être les Champs-Élysées à Paris pour trouver un équivalent.
Michel Lussault, à mes côtés, Antoine, merci pour vous interroger.
C'est l'heure des objections, donc. Michel Lussault, deux objections principales. D'abord, vous aviez tout de suite opposé donc, votre théorie à celle de Zygmunt Bauman sur la liquidité, la société liquide, la mondialisation qui arraserait toutes les différences, etc. Et vous vous dites, non, au contraire, il surgit des lieux, en tout cas, qui et de très nombreux lieux, qui, au contraire, montrent que ce n'est pas le cas. Et vous parliez notamment de ces mouvements sociaux d'occupation de place. Mais dans la manière dont ça se produit, et même pour d'autres événements comme ça qui ont lieu quelques jours, qui sont temporaires, la place est évacuée tous les jours, il n'y a pas vraiment de leader, il n'y a pas vraiment de structuration. Ça fait partie de la société liquide aussi. Ça peut faire partie de la société liquide. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est précisément une habitation durable. C'est simplement à l'occasion d'un lieu, on se rassemble. Première objection. Et la deuxième objection, c'est que quand même, il me semble que près de 99% de la population mondiale ne vit pas dans un hyperlieu. Et que ce qui est malgré tout majeur, c'est la manière dont les gens vivent de manière peut-être plus homogène qu'avant dans ce qui ne serait pas précisément des hyperlieux.
Alors deux très bonnes objections auxquelles je vais répondre. D'abord, ce qui m'a frappé dans la pensée de Bauman, c'était que lorsqu'il présentait la société liquide, il insistait beaucoup sur le fait qu'il n'y avait plus d'attache, qu'il n'y avait plus de ce que j'appelle des ancrages. Or moi, ce que j'essaye de démontrer de livre en livre, c'est que la vie humaine n'est pas possible sans ancrage. Sans ancrage de ce que j'appelle l'habitation, c'est-à-dire sans ancrage de sa vie au quotidien. Nous avons tous besoin d'ancrage. Ces ancrages peuvent être résidentiels, professionnels, mais ça peut être aussi quelques-uns des hyperlieux que je décris. Pour vous, Antoine Mercier, ce studio est un de vos ancrages. Oui. Vous ne pouvez vivre sans celui-ci.
C'est un petit lieu.
Oui, c'est un petit lieu, ce que j'appelle un site, mais néanmoins, cet ancrage, comme pour Elévia Gisbert, est aujourd'hui fondamental parce que c'est à partir de lui aussi que vous construisez un certain nombre de relations à d'autres lieux. Donc, je préfère, personnellement, peut-être nous y reviendrons, même si je commente le concept d'enracinement de Simone Weil, je préfère personnellement utiliser le concept d'ancrage, parce que pour moi, un ancrage, c'est un endroit où l'on mouille l'ancre, où l'on s'arrête, mais c'est aussi l'endroit à partir duquel on peut repartir et créer des liens avec d'autres endroits. Donc je trouve que Bauman avait des intuitions absolument géniales dans ses travaux, mais sous-estimait l'importance de l'attachement aux espaces et aux lieu de la vie au quotidien. Et cet attachement...
C'était pas un géographe.
Voilà.
Peut-être.
Cet attachement est aussi matériel, c'est-à-dire la disposition de ce studio, la façon même dont vous y vivez, dont vous vous installez, c'est quelque chose qui est important. Deuxième élément, je pense effectivement qu'il ne faut pas concevoir mes hyperlieux comme des silos, comme des conteneurs, comme des capsules fermées. Mes hyperlieux tels que je les décris, et c'est pour ça qu'ils sont hyper, sont traversés par les lignes de vie des acteurs et les lignes d'action de tous ceux qui s'y croisent. Et là, je reprends plutôt le travail d'un anthropologue, Tim Ingold, notamment son travail autour des lignes. Lorsque vous êtes dans un centre commercial, à Times Square ou dans ce studio, vous n'interrompez pas vos lignes de vie, vos parcours biographiques. Vous y venez, vous y en partez, vous lancez votre voix sur les ondes. C'est-à-dire, ce lieu est complètement strié, traversé par les réseaux télécommunicatifs.
Ça ne concerne pas forcément beaucoup de monde, c'est ça. L'objection reste valable sur la quantité.
C'est là où je pense que l'objection ne reste pas complètement valable. Si vous prenez l'intégralité de la gamme des hyperlieux que j'essaye de décrire dans ce livre. Parce que je crois qu'il faut préciser en fait que dans ce livre, je me consacre d'abord à ce que j'appelle des hyperlieux connectés, qui sont en plus un peu des emblèmes de la mondialité, des emblèmes de la mondialisation telle qu'elle est vue de la part des vainqueurs de la mondialisation.
Aéroport, par exemple.
Grande place, ouais. Aéroports, centres commerciaux. Je parle également des parcs de loisirs. grandes places urbaines. Mais ensuite, je me déplace vers d'autres types d'hyperlieux. D'abord, ce que j'appelle les hyperlieux événements, c'est-à-dire des lieux qui naissent sans avoir d'endroit fonctionnel préalable. Par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, devant l'aéroport de JFK, devant l'aéroport de New York, lorsque quelques centaines, milliers de personnes se réunissent pour protester contre l'acte de Trump, ils transforment cette esplanade en hyperlieu d'attention mondiale. Et vous en parlez, toute la presse en parle, les médias, les réseaux sociaux, tweets,
mettent des images. Ce que vous dites, c'est que la communication y est pour beaucoup aussi dans cette manière de façonner des hyperlieux. Il y a une stratégie presque de communication ou médiatique autour, ou une attention médiatique autour de ces hyperlieux.
Voilà, je parle des hyperlieux médiatiques, des hyperlieux événements comme des points de cristallisation de l'attention communicationnelle. C'est-à-dire, j'essaye de croiser, pour aller vite, un peu la théorie des sphères publiques d'Habermas, hein, et avec une théorie de l'agir local qui serait incarné dans des lieux. Et puis, j'aborde ensuite des hyperlieux d'un autre genre, qui sont beaucoup plus marqués par la revendication politique. Ceux que j'appelle les alter-lieux, Occupy Wall Street, Nuit Debout, la place Taksim. Ceux que j'appelle des contre-lieux, Notre-Dame-des-Landes, pour moi est un contre-lieu, mais un contre-lieu qui présente des caractéristiques d'hyperlocalité, en particulier cette connexion à tous les réseaux et le fait que cet hyperlieu crée un point de cristallisation de l'attention. On vient d'en reparler tout à l'heure, ça fait maintenant plusieurs années que Notre-Dame-des-Landes devrait être engagée et réalisée, pourtant il n'en est rien, il y a une sorte d'attention mondiale même qui se crée autour de cet endroit qui est devenu une sorte d'emblème de la résistance, et puis je parle même de nouvelles localités. Donc je pense que si vous prenez l'ensemble de ces lieux, cher Antoine Mercier, eh bien, je peux dire que vous-même, sans le savoir, peut-être comme Monsieur Jourdain faisait jadis de la
prose,
vous croisez ces hyperlieux, ils font partie de votre vie au quotidien.
Et alors, il y a effectivement des points communs entre ces alter-lieux, ces contre-lieux, ces événements-lieux et ces hyperlieux ubiquitaires, hein, que vous définissez, Michel Lussault, dans votre ouvrage, de la jungle de Calais à Occupy Wall Street, Nuit Debout, Place de la République, au Mall ou à l'aéroport, comme on a pu l'évoquer, il y a effectivement des éléments qui les lient. Certains lieux sont plutôt institutionnalisés, si on pourrait le dire comme ça. En tout cas, ils sont déjà existants. C'est le cas notamment de la gare, de l'aérogare ou de l'aéroport. D'autres sont vraiment des guerres de territoire, hein, et dans un rapport de force et de confrontation avec l'État. C'est ce qu'on peut évoquer avec les zadistes de Notre-Dame-de-Landes, où il y a là un besoin d'aller occuper l'espace, d'aller reprendre cet espace à la chose publique. Mais qu'est-ce que tous ces lieux, quel est le point commun finalement? Qu'est-ce qu'ils nous disent tous de nous?
Alors, ils nous disent plusieurs choses très importantes. D'abord, au plan anthropologique. Pardonnez-moi cette petite excursion quasi épistémologique, parce que la géographie pour moi est une anthropologie de l'espace habité. Au plan anthropologique, il nous rappelle quelque chose. Il n'y a pas de vie humaine pensable sans relation à nos espaces matériels de vie. Nous avons des sciences sociales en France qui ont longtemps été surdéterminées par l'importance accordée au temps et à la temporalité, pour des raisons tout à fait intéressantes et exactes. Et nous avons eu tendance à donner moins d'importance à cette autre dimension de notre existence au quotidien, qui est la relation à l'espace. Deuxième chose qu'ils nous disent, c'est que nous avons besoin des lieux aussi, parce que c'est dans ces lieux nous éprouvons nos affinités, nous éprouvons le fait que nous partageons quelque chose, même quelque chose de faible, parfois dans ces hyperlieux, nous avons des liens faibles avec autrui, mais nous éprouvons ce que j'appelle des affinités spatiales. Et puis un dernier point sur lequel nous reviendrons peut-être, beaucoup de ces lieux sont aussi des lieux à partir desquels on construit une capacité à s'affirmer en tant que sujet politique,
voilà,
en tant qu'acteur politique.
Voilà, parce que vous dites que tous ces lieux sont tous politiques.
Ces lieux sont fondamentalement politiques. Je développe cette
idée
à partir...
Même le centre commercial, même l'aéroport.
Bien sûr, je développe cette idée à partir d'une analyse de Hannah Arendt. Ces lieux sont politiques parce que dans tous ces lieux, nous avons d'abord à répondre à une question. Quel est le rapport de distance que j'entretiens avec autrui? Comment puis-je mettre en acte, en scène et en récit, cette distance que j'ai à l'autre? Et parfois, cette distance, j'essaye de la combler au maximum. C'est le cas à Nuit Debout, lorsque je me rassemble pour cette assemblée générale où les corps font la matière même de la place. Dans les centres commerciaux et les aéroports, je peux prendre un tout petit peu plus de distance, mais il n'en reste pas moins que c'est politique, parce qu'il s'y joue là une sorte de géopolitique des lieux qui est pour moi un des éléments clés de la mondialité contemporaine.
L'hypergéographe, parce que vous êtes un hypergéographe, Michel Lussault.
Disons-le comme ça.
Hein, et notre invité Michel Lussault aujourd'hui pour son essai Hyperlieu qui vient de paraître, Les nouvelles géographies de la mondialisation. C'est au Seuil, il est 13h18 sur France Culture.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Et on accueille Claire Maillot de l'équipe de la Grande Table, bonjour.
Bonjour.
Qui s'est intéressée à l'un de vos hyperlieux, Michel Lussault, et plus précisément à cet aéroport qu'on a déjà pas mal évoqué, notamment dans l'œil de Marc Auger, jusqu'ici, qui le percevait comme un non-lieu, vous le disiez. C'était au début des années 90, les temps ont changé. Votre contrepoint, Claire Maillot.
Oui, Michel Lussault, je vais même contredire votre intuition, celle selon laquelle le cinéma, le roman, la photographie ont présenté à tort ce lieu comme un non-lieu, selon Marc Auger, un lieu vide d'urbanité, empreint de mélancolie, de solitude, en évoquant une exposition qui sera présentée à partir du 23 février prochain à la Gaîté Lyrique. Son titre, Aéroport, Ville-Monde, manière d'indiquer que l'aéroport peut être le miroir le plus saisissant de l'époque, qu'il est en perpétuel mouvement, qu'il peut être un laboratoire de la vie contemporaine, selon le mot de son commissaire d'exposition, Franck Bochard. Lieu de vie, certes, mais aussi lieu sous tension. Cette dialectique, elle est au cœur du projet Psychanalyse de l'aéroport international que présenteront deux artistes et chercheurs, Stéphane Dugoutin et Gwenola Wagon. C'est elle que j'ai appelée ce matin. Elle nous explique sa démarche. Écoutez.
L'aéroport était un peu le summum de la concentration, de la circulation et du sécuritaire au moment où, j'allais dire les névroses sont à leur comble, mais plutôt les paradoxes sont plus saillants. C'est un hyperlieu qui est en fait sous tension. Il a tellement de tension, parce qu'il y a tellement de contradictions, de vecteurs qui sont en tension à l'intérieur de l'aéroport, qu'en fait on a, nous, décidé d'en faire un projet qui s'est étalé sur une assez longue période. Dans l'exposition qui aura lieu à la Gaîté Lyrique, on va montrer un livre qui a une forme à la fois de livre papier comme un livre et qui en même temps est étalé par des dépliants sur une grande table. Et chaque grande dépliant page du livre présente une salle d'un musée, qui est un musée virtuel si on veut. Et ce musée, c'est en quelque sorte le musée de l'aéroport international d'aujourd'hui, tel qu'on peut le voir à Londres, Paris, Dubaï, etc. Et il est représenté à travers ses névroses, ses dysfonctionnements, ou ses failles, ou ses points de questionnement. En fait, on a baptisé le livre « Psychanalyse de l'aéroport international » pour ausculter ces névroses. Donc il y a différentes salles, et chaque salle a sa névrose. Ça va de la perte de contact avec la réalité à l'hyperespace de l'Occident, en passant par une salle qui s'appelle « Désir de mort », où on analyse le rapport entre la mort et la vie, pulsion de mort, pulsion de vie, ou voir la tension entre transparence, opacité, où homme-machine est à limite, et toutes ces tensions deviennent en fait l'enjeu d'une exploration souvent très visuelle, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'images et d'icônes qui viennent essayer de s'enfiler à l'intérieur de ça.
C'est donc un aéroport dans lequel la liberté de circulation est drastiquement encadrée, que documentent ces artistes. Le sous-titre de leur projet sur ce point éclairant, c'est Psychanalyse de l'aéroport international, musée du terrorisme. Et ça, c'est une dimension, Michel Lussault, qui est assez peu abordée dans votre essai, celle de la sécurité, voire de l'obsession sécuritaire qui entoure ces hyperlieux. Pourquoi ne l'avoir pas abordée? Et est-ce qu'elle, d'une certaine manière, c'est pas un facteur entravant dans l'émergence et la pérennité de ces hyperlieux?
Alors je l'avais beaucoup abordé, la question de la sécurité dans les aéroports, de la traçabilité des épreuves de passage dans mes deux précédents livres. Donc je voulais alléger un peu le poids de cette analyse. Mais néanmoins, dans mon étude des aéroports comme hyperlieux, j'insiste beaucoup sur le fait que l'hyperlieu est effectivement, aéroport est effectivement un endroit où les codes de prescription et de procédure spatiale sont très prégnants. Et on a l'impression qu'on ne peut pas y échapper. Et malgré tout, la sociabilité s'épanouit. Malgré tout, on peut aussi être amené à subvertir ces codes. Soit par erreur. Tout le monde a été confronté aux personnes qui se trompent dans les procédures d'accès aux avions. Soit volontairement, parce que paradoxalement, l'hyperlieu aéroport est aussi un lieu où la revendication politique peut exister. Il y a énormément de contestations, on vient encore de le voir.
On ne prendra pas l'avion de la même façon après vous avoir lu.
Exactement, j'espère bien. mais je montre aussi que dans cet hyperlieu, à travers une anecdote qui m'est arrivée, le soir, on voit apparaître tous les marginaux de la mondialisation qui prennent possession, par exemple, à Roissy-Charles-de-Gaulle, des SAS, les clochards, les sans-domicile fixe, des personnes qui ont atterri ici, qui sont sorties des zones de rétention mais qui ne savent pas où aller. C'est-à-dire que même dans un endroit extrêmement policé, extrêmement surveillé, qui paraît être à l'opposé de la possibilité de vivre librement, eh bien, en fait, la sociabilité n'est pas suspendue, le rapport social n'est pas suspendu, les rapports de pouvoir ne sont pas suspendus. C'est-à-dire que c'est aussi l'aéroport, et j'espère le montrer, c'est aussi un lieu où l'on voit parfaitement clairement l'importance prise, par exemple, par les inégalités sociales. Quelle qu'en soit la volonté des opérateurs des grands aéroports, la question des inégalités sociales, des différences de pouvoir, des rapports de genre, ces questions ne sont absolument pas suspendues. Donc il faut les prendre au sérieux.
Michel Husseau, dans le monde actuel, vous êtes un partisan du localisme ?
Je suis plutôt un partisan, comme je le disais tout à l'heure, de la mise en exergue de la tension entre ce que j'appelle les trois régimes de la spatialité contemporaine. Un régime mondial, c'est-à-dire tout ce qui renvoie au fonctionnement d'échelle mondiale de notre espace terrestre.
Mais dans les années 80, on nous disait penser global, agir local. C'est dépassé pour vous cet adage?
C'est pour moi dépassé parce que je pense en fait que ces trois régimes ne s'emboîtent pas, mais sont toujours en permanence activés par la moindre de nos actions. C'est-à-dire qu'il y a un régime mondial, il y a un régime local. Nous agissons toujours localement, mais nous avons aussi un régime intermédiaire qui est celui, par exemple, des États. Et c'est plutôt la tension entre ces trois régimes de spatialité qui sont présents dans toutes nos actions. Et le journal que vous venez de faire était à ce point formidable que je me disais c'est trop beau pour être vrai, parce qu'il y avait en permanence ces trois régimes local, national et mondial qui interagissaient. Eh bien, nous sommes pris par cette tension et c'est ça qu'il m'intéresse d'étudier.
Alors moi, je vais quand même vous prendre en flagrant délit d'optimisme, peut-être un petit peu abusif.
Oh là
parce
là.
Que à la fin, alors bon,
quel péché.
Non, justement, je vous félicite pour votre optimisme.
Mais regardez, essayez de
regarder ce que ça vous fait.
Ça n'a pas réussi.
Regardez ce que ça vous fait écrire. Vous dites, l'individu ne constituerait-il pas en lui-même, donc on parle des individus, et pour lui-même un hyperlieu connecté, parfaitement ubiquitaire, parfaitement générique, mais aussi parfaitement singulier, un singleton porteur d'idiosyncrasie. Singleton porteur d'idiosyncrasie. Là, vous avez défini, finalement, l'homogénéisation du monde. Nous allons tous devenir des singletons avec de l'idiosyncrasie à l'intérieur.
Qu'est-ce bon, que alors, c'est déjà
Antoine Mercier, je confesse un défaut majeur, surtout dans la période contemporaine. Je ne suis pas un penseur apocalyptique. C'est-à-dire, je ne propose pas l'apocalypse pour demain, ce qui évidemment me condamne à des ventes confidentielles. Deuxièmement, vous faites référence ici à un moment de la conclusion où je me pose une question. Tout ça est avec un point d'interrogation. Finalement, grâce au progrès de la télécommunication, ne deviendrions-nous pas chacun un hyperlieu au sens où nous sommes effectivement toujours connectés, possiblement, à tous les réseaux de la mondialité, en même temps que complètement local. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui à la fois des récepteurs de tout et des émetteurs de beaucoup de choses. C'est une question que je me pose et je pense que cette question, il faut l'aborder sereinement en sachant que dans ce domaine du numérique, comme dans toute pratique sociale, le meilleur côtoie le pire. C'est-à-dire, je n'en suis pas particulièrement content. Et je pense que ce singleton porteur d'idiosyncrasie, il est à la fois, voilà une formule qui va
oui,
aussi me faire regarder par ceux qui estiment que les sciences sociales jargonnent par trop souvent, mais ce singleton porteur d'idiosyncrasie, tout mot qu'on retrouve, je crois, chez Nietzsche, ça renvoie à deux choses. Oui, l'individu est toujours un individu comparable à un autre. Mais l'idiosyncrasie, ça veut dire qu'il est aussi spécifique, voire singulier, et donc différent de tout autre. C'est presque, en fait, l'image d'un monde où il y aurait autant de lieux différents qu'il y a d'individus différents. C'est-à-dire un monde, au contraire, porté au maximum de la, variété, sous l'apparence de l'homogénéité du fait que chaque individu est apparemment comparable à un autre, mais en réalité, chaque individu renforce sa spécificité. C'est très bien étudié par certains sociologues, anthropologues, ou en France par Bruno Latour ou par Dominique Boulier, qui ont par exemple développé l'analyse de ce que l'on appelle aux États-Unis le self-editing. Hein, c'est-à-dire, via les réseaux sociaux, cette capacité que les individus ont à se mettre en permanence en scène comme différents des autres, eh bien, ce self-editing, je l'explique dans mon livre, passe aussi souvent par la mise en scène dont son rapport au lieu. C'est aussi pour ça que je commence le livre en parlant des selfies, par exemple, dans des endroits emblématiques.
Michel Lussault, il nous reste une minute. Quel scénario d'avenir pour ces hyperlieux, selon vous, sont amenés à se développer, à s'étendre, à se multiplier, à se diversifier encore?
Je pense que nous sommes au moment où ces hyperlieux vont être amenés à prendre de plus en plus d'importance parce qu'ils vont se charger de plus en plus politiquement de sens. Dans la fin de mon livre, et c'est pour ça que je termine par 3 chapitres sur les altérieux, les contre-lieux, les nouvelles localités, je pense en fait que ces lieux deviennent de plus en plus des endroits où l'on essaie de constituer une autre démocratie, une autre manière d'agir. Vous avez tout à l'heure parlé des élections. Eh bien, je pense qu'il y a de plus en plus de concitoyens un peu partout dans tous les pays démocratiques qui ne veulent plus résumer leur citoyenneté à l'exercice du vote et qui veulent trouver de nouvelles manières de s'engager pour régler en commun les questions que nous avons à régler collectivement et qui sont considérables. Eh bien, je pense que les lieux peuvent être des plateformes de mobilisation. Donc, à sa manière, ce livre est aussi un appel à repenser le politique et à repenser l'action des individus.
Merci beaucoup, Michel Lussault. Hyperlieux, les nouvelles géographies de la mondialisation. Un essai qui vient de paraître au Seuil dans la collection La couleur des idées. Merci à toute l'équipe de la Grande Table. Retrouvez d'ailleurs les infos qui vous ont été données durant cette émission en 2 parties sur le fil des réseaux sociaux et sur franceculture.fr à la page de la Grande Table. Émission conçue et préparée par Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Nicolas Dutan, avec l'aide précieuse d'Isot Sicard et d'Inès McGriff. Aux manettes ce mercredi, Vincent Abouchard avec Bruno Gagnère. Un grand merci aussi à Antoine Mercier qui m'accompagne depuis une heure. Merci.